Philippe Münch nous rejoint. Philippe Münch est élève conservateur à Alensib. Merci Philippe.
D'accord. Merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui pendant cette journée d'études et très heureux de pouvoir partager avec vous certaines des thématiques et problématiques qui ont animé mon quotidien au cours de l'année 2016 pour mon mémoire d'études. Comme vous le voyez, j'ai décidé d'intituler mon intervention « Combattre l'illettrisme en lecture publique C » pour la simple et bonne raison que cette intervention sera articulée en trois temps, chacun de ces temps étant un complément à ce début de phrase ou une réponse à ce début de phrase. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour ne pas perdre trop de temps. Combattre l'illettrisme en lecture publique, c'est d'abord, vous l'aurez compris, un mémoire de fin d'études du diplôme de conservateur des bibliothèques, soutenu en janvier 2017 et librement disponible en ligne depuis février 2017 dans la bibliothèque numérique de l'ENSIB. Donc si vous tapez le titre de ce mémoire dans votre moteur de recherche ou votre navigateur préféré, vous devriez tomber immédiatement sur le PDF. À l'origine de ce travail, il y avait un sujet qui avait été proposé par Fabien Plazanet, l'ancien directeur du département des bibliothèques du service du livre et de la lecture et l'actuel directeur du département de la philosophie de l'histoire et des sciences de l'homme à la BNF. Le sujet qui avait été soumis par Fabien Plazanet à l'ENSIB était le suivant. La prévention de l'illettrisme en bibliothèque, double point, politique, action, perspective, ces trois termes étant pluriels. Et pour entrer un peu plus dans le sujet, on va se livrer à un petit exercice de déconstruction qui est cher à tous les bacheliers ou à tous les étudiants qui commencent leurs études. On va commencer par le terme illettrisme. J'aimerais poser une question aux personnes présentes dans la salle. Est-ce que quelqu'un est capable de me définir le phénomène de l'illettrisme très rapidement ? Pas même une tentative ? Oui ? Oui, non ? Personne ? Oui, oui, allez-y. Ouais. Ouais. C'est dans... J'ai pas entendu la fin, pardon. Exactement, c'est tout à fait ça. Exactement. Félicitations, parce qu'en général, les gens ne savent pas. Donc d'emblée, l'illettrisme késako. Alors le terme illettrisme, vous avez la définition ici, qualifie la situation dans laquelle se trouvent des hommes et des femmes qui, et c'est important, tout en ayant été scolarisés en France pendant les années de formation scolaire obligatoire, ne maîtrisent pas suffisamment les compétences de base que sont la lecture, l'écriture, le calcul, d'autres rentrent également le fait de s'orienter tout simplement, pour être pleinement autonomes dans la vie quotidienne. Ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que pour être potentiellement en situation d'illettrisme, il faut avoir 16 ans révolus. On ne peut pas être considéré en situation d'illettrisme avant d'avoir 16 ans. On peut l'être par après, on ne peut pas l'être avant. Quand on entend des politiques ou des philosophes, des chercheurs qui parlent de l'illettrisme des sixièmes parce qu'ils ne savent pas lire et écrire en entrant au collège, c'est faux en tant que tel. C'est impropre. On devrait plutôt dire que ces jeunes sont en échec scolaire. L'une des difficultés majeures liées à l'illettrisme, c'est aussi que ces personnes... Les personnes concernées par ce phénomène appartiennent à un groupe transversal. J'entends par là qu'il n'y a pas de profil type. On peut être touché par ce problème et habiter à la ville ou habiter à la campagne. Être jeune, être vieux, une femme ou être un homme, travailler, ne pas avoir d'emploi, etc. Il faut aussi faire un petit distinguo entre trois situations bien particulières que sont l'illettrisme, l'analphabétisme et le français langue étrangère. L'illettrisme, j'en ai parlé à l'instant. L'analphabétisme, c'est la situation de personnes qui sont en fragilité avec la langue, tout en n'ayant pas été scolarisées dans un système scolaire quelconque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de passage par l'école. C'est ça qui fait le distinguo entre les deux. Le FLE, français langue étrangère, quant à lui, concerne la situation de personnes qui, arrivant en France, doivent faire l'apprentissage de la langue française pour pouvoir s'insérer, intégrer la communauté nationale. Si l'on parle maintenant de l'expression, ou du groupe nominal, la prévention de l'illettrisme, j'aimerais faire un petit distinguo également entre certains termes qu'on entend très souvent. Alors on parle de prévention de l'illettrisme, on parle de lutte contre l'illettrisme, on parle du combat contre l'illettrisme. Moi, j'essaye de scinder les catégories assez clairement. Pour moi, la prévention de l'illettrisme désigne au sens large l'ensemble des dispositions prises et des moyens engagés afin d'empêcher une fragilité avec l'écrit de se déclarer une fois sortie du parcours scolaire initial. A contrario, la lutte contre l'illettrisme, par lutte, il faut entendre l'ensemble des procédures, pratiques et formations mises en œuvre pour permettre aux personnes en situation de difficulté par rapport à l'écrit de parvenir à se familiariser de façon concrète et durable avec la lecture et l'écriture dans une perspective d'épanouissement personnel, social et professionnel. Cette définition, je l'ai reprise d'une boîte à outils ENSIP de 2013 sur la formation professionnelle et les bibliothèques. Cette définition est extraite d'un article de Sylvie Tomic qui avait rédigé donc son article pour cette boîte à outils, mais qui était aussi l'auteur d'un précédent mémoire d'études qui s'intitulait « Le rôle des bibliothèques publiques dans la lutte contre l'illettrisme », sur lequel je me suis entre autres appuyé pour mon propre travail. J'ai essayé de résumer ce que je viens de dire par un rapide schéma. En gros, à partir de 16 ans, on peut être considéré en situation d'illettrisme. C'est-à-dire qu'on peut être en situation d'illettrisme à partir de cet âge-là. Ça ne veut pas dire qu'on tombe directement en illettrisme à 16 ans. Ça peut être plus diffus. On peut très bien avoir des fragilités à 16 ans et voir ses compétences s'effriter et à 30 ans être en situation d'illettrisme. De fait, à partir de 16 ans, on peut considérer qu'il s'agit de lutte contre l'illettrisme. Avant 16 ans, c'est de la prévention de l'illettrisme. On essaye d'empêcher ce phénomène de se déclarer. Et dans mon esprit, combat recoupe les deux volets que sont la prévention et la lutte. D'où le titre « Combattre l'illettrisme en lecture publique ». Donc le libellé de base que je vous rappelle, la prévention de l'illettrisme en bibliothèque, politique, action, perspective, qui était celui de Fabien Plazanet, posait deux problèmes et un paradoxe. Le premier problème était qu'il était trop réducteur, c'est-à-dire que l'on n'embrassait qu'un seul des deux volets qui sont traditionnellement envisagés, et la moitié de la question s'en trouvait évacuée. En particulier la moitié de la question qui, d'ordinaire, intéresse le plus, c'est-à-dire la lutte contre l'illettrisme. Mais un paradoxe, je disais donc, c'est trop réducteur et à la fois c'est trop vaste, c'est-à-dire comment mesurer l'efficacité des actions de prévention de l'illettrisme ? J'entends par là que si l'on prend deux situations bien précises, si l'on prend la situation d'une personne qui est arrivée à 16 ans est en pleine compétence, en pleine maîtrise de la langue française, et la situation d'une personne qui est fragilisée dans ses compétences de maîtrise de la langue française, concernant une personne qui ne maîtrise pas le français à 16 ans, on sait très bien que les actions qui ont été mises en place en termes de prévention auront, d'une manière ou d'une autre, échoué et n'auront pas été suffisantes. En revanche, si on considère la personne qui est parfaitement en maîtrise de la langue française à ses 16 ans, dans quelle mesure peut-on dire que l'action X, Y ou Z qui a été entreprise par une bibliothèque quand l'enfant, par exemple, avait 5, 6 ans, a participé de cette pleine maîtrise de la langue française ? On ne peut pas le mesurer. De même, quel périmètre pour la prévention ? Actuellement, dans le cadre de mon stage professionnel, je suis à la Bibliothèque municipale de Lyon, je suis au département jeunesse. Dans ce cadre bien précis, ils ont un festival qui s'appelle le Printemps des petits lecteurs, qui est un festival jeunesse avec des animations, des heures du conte, des heures des comptines, de l'animation avec le numérique, la tablette, ça tourne autour des livres, etc. Quel périmètre mettre pour la prévention, puisqu'on peut faire rentrer tout et rien dans la prévention. Au final, un bibliothécaire peut très bien dire qu'en mettant un livre dans la main d'un enfant, ça peut être la prévention. Donc la prévention, il y a un risque aussi de voir tout et rien mis dans ce thème de la prévention. D'autant que, la prévention est plus une logique, plus naturelle pour les bibliothécaires. Très souvent, les bibliothécaires, en particulier jeunesse, ne se rendent même pas compte qu'ils font de la prévention de l'illettrisme. J'ai fait récemment une intervention un peu similaire à la Bibliothèque municipale de Lyon, en interne. Les bibliothécaires jeunesse ont été surpris d'apprendre qu'en fait, ils faisaient de la prévention, mais ce n'était juste pas dans leur logiciel de pensée de se dire qu'ils faisaient de la prévention. A l'inverse, la lutte contre l'illettrisme, c'est plus compliqué, puisque n'étant pas intrinsèquement naturel pour les bibliothécaires, la lutte demande une réflexion, une formalisation, une espèce de logique et quelque chose de bien clair, bien formalisé pour mettre en œuvre des actions. Donc, comme je le disais, le mémoire embrassait les deux volets, combattre l'illettrisme en lecture publique, d'où le titre. Si je continue l'étude de ce sujet, en bibliothèque, et là je vais être très bref, le champ de mon étude, le cadre physique de mon étude, concerne principalement les BDP et les bibliothèques municipales, mais je me suis permis quelques détours profitables par les bibliothèques d'association, Bibliothèques sans frontières notamment, les bibliothèques de rue datées des quarts-mondes et également les bibliothèques de prison, d'autant qu'en prison, on monte très facilement dans des taux d'illettrisme à deux chiffres. Il y a facilement 10, 11, 12, 13, jusqu'à 15% d'une population d'une prison qui peut être frappée d'illettrisme. Et enfin, ce qui se trouve juste après les doubles points, politique, action, perspective. Et là, j'ai envie de dire bof. Je l'avoue que j'en ai pas fait grand-chose, en fait. Avec Fabien Plazanet, j'ai convenu avec lui qu'effectivement, il avait placé ça à la fin, mais juste à titre de piste. C'était juste pour que je m'approprie le sujet. Mais donc, il a bien convenu, effectivement, que la fin de ce sujet n'était pas des plus C'est pas la partie la plus intéressante, on va dire. Deuxième temps, combattre l'illettrisme en lecture publique, c'est aussi compliqué. Et je vous surprends. La structure du mémoire est donc en trois parties et on va rapidement la balayer. La première partie, penser l'illettrisme en bibliothèque, les bases, qui contient, selon moi, tout ce qu'un bibliothécaire doit savoir s'il entend se lancer dans le combat contre l'illettrisme. C'est un peu le béaba. La deuxième partie, l'illettrisme à bras-le-corps, une réalité pluridimensionnelle en bibliothèque, concerne plutôt là, les aspects pratiques, les illustrations, en particulier les réalités tangibles sur le terrain avec une différenciation territoriale. J'en parlerai plus tard. Et ce qui peut faire un peu l'originalité de ce travail, ou du moins ce qui peut le distinguer de, d'autres travaux, c'est le fait que je n'ai pas de troisième partie à proprement parler. J'ai remplacé la troisième partie par un vademécum, qui a été, et j'ai réalisé de nombreux entretiens qualitatifs pour ce travail, qui a été demandé à la fois par les services centralisés, le ministère, etc., mais aussi les acteurs sur le terrain qui sont cruellement en manque de documents pratiques ou du document de référence sur cette question de l'illettrisme en bibliothèque. De fait, je propose, modestement, un vademécum du bibliothécaire relatif à l'illettrisme et aux moyens de le combattre, qui doit pouvoir répondre à cette absence ou à cette carence. Donc, si on rentre un peu plus dans le sujet, sur les bases théoriques, je commence tout bêtement par un petit historique de la notion d'illettrisme. Pour faire rapidement une petite chronologie, aller très rapidement, la notion d'illettrisme, le phénomène de l'illettrisme était déjà tangible dans la société. Il a été cependant noté à la fin des années 70 et au début des années 80 par le père Joseph Wrzesinski, qui est le fondateur du mouvement ATD Quart-Monde, qui, dans son rapport annuel, décide d'inventer un nouveau terme, c'est donc un néologisme à la fin des années 70, l'illettrisme, pour qualifier la situation des personnes qui sont en fragilité avec la langue tout en étant passées par le système scolaire, pour faire un distinguo à l'époque avec les populations immigrées, issues de l'immigration, venues en France dans la période d'après-guerre pour aider à la reconstruction. Il avait noté qu'il y avait une espèce de confusion entre les deux et il a inventé ce néologisme pour permettre la distinction. Ce terme, qui est un néologisme, a par la suite, dans les années 80, fait l'objet d'un rapport, au début des années 80, qui s'appelait « Des illettrés en France », qui a fait l'effet d'une bombe parce qu'on s'est rendu compte que le système scolaire, qui semblait immaculé, formidable, tout le monde sortait de l'école avec les compétences, ben en fait, ce n'était pas le cas. Et on avait un certain nombre de personnes en France qui se retrouvaient en fragilité linguistique. De fait, à la suite de ce rapport, un groupe a été créé, le groupe permanent de lutte contre l'illettrisme, le GPLI, en octobre 84, qui a travaillé dans les 15 dernières années du XXe siècle pour donner notamment une définition à l'illettrisme. Ce GPLI a été refondu en 2000 en Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, l'ANLCI, qui est basée à Lyon. Cette ANLCI a continué son travail en offrant notamment des chiffres sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Néanmoins, je pousse mon analyse jusqu'aux récentes années dans un contexte post-attentat, post-Charlie notamment, où les politiques ministérielles ont tenté de s'interroger sur la notion de vivre ensemble, qui a pu mener aux récents débats, aux récentes polémiques autour de la refonte potentielle de la NLCI au sein d'une plus grande structure qui serait centrée sur la maîtrise de la langue française, qui serait une agence de la cohésion sociale et de l'insertion sociale ou quelque chose comme ça, le nom m'échappe, qui aurait été chapeauté par Thierry Lepan, l'ancien patron de la CGT. En tant que tel, ça ne s'est pas fait. Et en fin de compte, Thierry Lepan, qui est bien à la tête de cette nouvelle agence, chapeaute la NLCI, qui n'a pas été refondue dans cette agence. Donc la NLCI existe encore à l'heure actuelle. Sur les définitions, je n'y reviendrai pas, puisque c'est ce que je viens de faire en début d'intervention. Les causes de l'illettrisme, en revanche, c'est très intéressant. Sur les causes de l'illettrisme, beaucoup de personnes considèrent qu'il y a des personnes en situation d'illettrisme en France parce que l'école a échoué. La faute est tout de suite rejetée sur l'école. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tout un faisceau de causes ou de raisons qui peuvent expliquer qu'une personne tombe dans une situation d'illettrisme. L'école a sa part à jouer, a sa part à prendre, pardon. Il y a aussi le milieu familial, le milieu social. Est-ce que les parents ont une familiarité avec l'écrit ou non ? Est-ce qu'au moment où il y a eu un apprentissage de la lecture, il y a eu une espèce de traumatisme qui a rendu difficile cette appropriation de la lecture ? Il y a toutes ces causes qui se mêlent dans une espèce de gloubi-boulguin un peu difficile à démêler. Je vous renverrai bien volontiers, non pas un documentaire, mais une fiction qui a été publiée en janvier 2016 par Cécile Ladjali, qui s'appelle tout simplement, c'est un roman qui s'appelle tout simplement « Illettré ». Dans lequel Cécile Ladjali, avec son style un peu ampoulé et un petit peu baroque, ce qui est en contradiction totale avec son sujet, néanmoins parle d'un personnage qui s'appelle Léo Krems, Et dans un chapitre, dont je ne me rappelle plus vraiment du titre, qui est quelque chose comme « Cause du traumatisme, origine du traumatisme », qui est très bon ce chapitre-ci, parle sans embâge du cas de Léo Krems et de son enfance, de sa naissance, jusqu'à ses 16 ans et à son entrée, paradoxalement, en dépit de sa situation d'illettrisme, dans une imprimerie où il est responsable de la sélection des caractères. Ensuite, l'illettrisme et ses déclinaisons, et là je rejoindrai ce qui a été dit lors de la table ronde précédente, puisqu'il y a différentes formes d'illettrisme. Je vais faire très brièvement, je vais parler de l'électronisme, qui peut s'adjoindre à l'illettrisme et renforcer encore, ou du moins aggraver une situation d'illettrisme, dans la mesure où, pour maîtriser l'outil informatique, pour maîtriser un ordinateur, la maîtrise de l'écrit est importante. Donc, il peut y avoir un double renforcement de l'illettrisme par l'électronisme, mais l'électronisme peut aussi frapper des personnes qui connaissent parfaitement la langue française et qui maîtrisent bien la langue française, en particulier les personnes du troisième âge, qui sont plus fragiles, qui ne sont pas nées avec cet outil, qui ont du mal à s'y adapter. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je pourrais parler de l'anumérisme aussi, qui est l'application du phénomène de l'illettrisme plutôt à la logique du calcul, du raisonnement numérique. Sur le thème de l'illettrisme du handicap, certaines personnes rapprochent l'illettrisme du handicap en disant que oui, l'illettrisme est un handicap comme les autres. Moi, je me garderais bien de faire cette comparaison. Je vous renvoie à cette partie pour plus de détails, mais je considère qu'on rentre très vite dans des logiques malsaines et même de hiérarchie des handicaps en se disant est-ce qu'il est légitime de parler de handicap pour l'illettrisme ? Au maximum, je me permets, moi, et c'est la conclusion que je tirerai sur ce thème, c'est que l'illettrisme, au maximum, peut être considéré comme handicapant dans la société, sans pour autant être un handicap. C'est là qu'est la nuance. Sur les chiffres, maintenant, pour donner un côté un peu plus tangible à ce phénomène pour lequel, pour l'instant, j'étais assez vague ou très théorique, j'aimerais renvoyer à deux enquêtes qui ont été réalisées par l'ANLCI et l'INSEE conjointement, dans les deux cas avec les mêmes critères d'évaluation. La première enquête et les premiers chiffres dont on dispose sur le phénomène de l'illettrisme en France remontent à 2004-2005, où l'enquête avait établi que 9% de la population âgée de 18 à 65 ans vivant en France métropolitaine était en situation d'illettrisme. Alors, 9% dit comme ça, ça peut sembler relativement peu ou bas comme taux. Si on le rapporte à la population en l'occurrence, ça fait 3,1 millions de personnes qui vivent en situation d'illettrisme en France au début du XXIe siècle. Une seconde étude, une seconde évaluation a été réalisée 7 à 8 ans plus tard, en 2011-12, toujours avec les mêmes critères. Et cette analyse révèle qu'il y a une légère amélioration de la situation puisque 7% seulement, de la population âgée de 18 à 65 ans était en situation d'illettrisme, ce qui représente 2,5 millions de personnes. Pour nuancer un petit peu ce chiffre, puisqu'on ne dispose pas de nouvelles données depuis 2011-12, sur ces 2,5 millions de personnes, 53% ont plus de 45 ans. Les hommes sont plus en situation d'illettrisme que les femmes, 60,5% contre 39,5%. 48,5% de ces personnes en situation d'illettrisme sont des ruraux. Et enfin, peut-être le chiffre le plus impressionnant ou le plus probant, 51% de ces personnes ont un emploi. C'est-à-dire qu'actuellement en France, il y a 1,3 million de personnes qui travaillent au quotidien en ayant des fragilités avec la langue française et en essayant de travailler efficacement dans un environnement qui est un véritable enfer pour eux puisqu'ils sont entourés d'écrits à longueur de temps. Je tiens à terminer sur les chiffres en disant que d'après la NLCI et d'après les informations que j'ai, en 2018-19, une troisième enquête devrait être mise en place afin de mettre à jour ces chiffres et d'offrir des données un petit peu plus fraîches, puisque ça fait quand même 5 ans maintenant que ces données ont été produites. Enfin, déconstruction des idées reçues, et là je parlerai peut-être de l'exemple qui est toujours offert par Éric Nédélec, le coordinateur national et territorial de la NLCI, lorsqu'il fait une intervention. Lorsqu'il fait une intervention, il a tendance à commencer par poser comme question à la salle, pour vous, c'est quoi une personne en situation d'illettrisme ? Et la réponse qui sort le plus souvent, c'est, c'est des jeunes, des cités, au bas des immeubles, ils savent pas parler français, ils sont au chômage, et en général, ils passent leur vie à être oisifs, ils font rien, ils fument du shit, ou que sais-je. En fait, non, il n'y a pas de portrait type, comme je l'ai dit tout à l'heure. Néanmoins, si on veut se rapprocher un peu plus de la réalité, on peut considérer qu'une personne en situation d'illettrisme, ça serait peut-être plutôt un homme, ou une femme d'ailleurs, un homme ou une femme, quinquagénaire, qui vivrait à la campagne ou en zone périurbaine, et qui aurait un emploi et qui essaierait de survivre au jour le jour en dépit de cette fragilité linguistique. Ensuite, dans cette partie sur les bases, je parle des cadres et des partenaires du combat contre l'illettrisme pour les bibliothèques. Je parle du référent national, l'ANLCI, sur lequel je ne rajouterai pas grand-chose, ayant déjà bien parlé de ce sujet, et ses relais régionaux, puisque sont placés régionalement auprès des SGAR, en général, dans les préfectures, des relais régionaux, des responsables locaux de l'ANLCI qui sont chargés d'articuler la politique à l'échelle régionale. Cette articulation est formalisée en temps normal dans un plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Il est censé y en avoir un par région. À l'époque où Sylvie Tomic avait réalisé son étude, elle n'avait pu en étudier qu'une petite dizaine, puisqu'il n'y avait que 10 plans disponibles. J'ai pu pousser son étude un peu plus loin et les analyser tous. Il y en a plus d'une vingtaine, sachant que certaines régions n'en ont pas. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces plans régionaux, qui sont pluriannuels, qui sont en général calés sur 3 à 5 ans, sont incroyablement périmés. Ils n'ont aucune actualisation. Mention spéciale peut-être, je crois, à la Basse ou à la Haute-Normandie, qui a un plan périmé depuis 2007 et qui n'a pas été revu depuis. Autre critère assez important, ou donnée assez importante, la place des bibliothèques dans ces plans régionaux de prévention et de lutte contre l'illettrisme est relativement minoritaire. C'est vraiment très probant. La lecture publique est assez peu prise en compte. La seule région qui prend véritablement ça en compte et qui est très dynamique sur la question de l'illettrisme et de l'inclusion de la lecture publique dans les actions contre l'illettrisme, c'est la Bretagne, qui fait vraiment un travail exemplaire et qui inclut totalement le combat contre l'illettrisme, la lecture publique dans le combat contre l'illettrisme. Ensuite, les centres 2 ou les centres ressources illettrisme, les CRI, qui sont les acteurs plus locaux, les centres de ressources qui servent à outiller, à informer, à former les acteurs locaux. C'est vraiment les relais très locaux des acteurs que je nomme acteurs complémentaires, et je fais le distinguo avec les autres acteurs, la NLCI et les centres ressources illettrisme, en ce qu'ils n'ont pas vocation, eux, à avoir l'illettrisme ou la lutte contre l'illettrisme comme cœur de cible ou comme cœur d'activité. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme existe parce qu'il y a un phénomène d'illettrisme et elle lutte contre. Les CRI existent parce qu'il y a un phénomène de lutte contre un phénomène d'illettrisme contre lequel il faut lutter. Les services sociaux, les RAM, les PMI, les bibliothèques n'ont pas comme cœur de cible l'illettrisme. C'est un volet d'action qui peut intéresser les bibliothèques, mais pour moi, ce sont des acteurs complémentaires. En tant que tel, quelle est la place des bibliothèques dans le combat contre l'illettrisme ? Alors, assumer son rôle social, j'ai interrogé, comme je l'ai dit, dans le cadre de mon travail, environ une vingtaine de personnes, des acteurs de toutes tendances, de tous bords, de tous secteurs, des conseillers livrés lecture, des bibliothécaires, des associatifs, etc. Dans le rang des bibliothécaires, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut les classer presque en trois tendances. Alors, il y a ceux qui considèrent que la lutte contre l'illettrisme en tant que cause sociale est absolument, doit être investie par les bibliothécaires parce que, les bibliothèques ont un rôle social, elles doivent remplir ce rôle social. Très souvent, ces personnes ont un passé associatif militant et reconvertissent ce passé associatif et militant dans les causes qui motivent le fonctionnement au quotidien de leur bibliothèque. Il y a ensuite les personnes ou les bibliothécaires qui considèrent que la lutte contre l'illettrisme en tant que cause sociale peut être utilisée comme un levier d'appui et de justification des politiques mises en place dans la bibliothèque auprès des élus. Donc quelque chose d'extrêmement pragmatique. Et à l'inverse, il y a des bibliothécaires qui se montrent plus distants et qui considèrent que la bibliothèque n'a pas de rôle social, mais elle doit créer du lien social, donc un acteur plus distant. De fait, on peut s'interroger, on peut légitimement s'interroger sur la légitimité en elle-même de ces bibliothèques. D'autant que l'identification des personnes en situation d'illettrisme pose problème. J'ai mis repérage entre parenthèses, mais depuis une journée d'études à laquelle j'avais participé le 6 mars dernier à la bibliothèque universitaire de Villetaneuse, à laquelle avait participé également Hugues Lenoir, qui est un spécialiste de l'illettrisme depuis une vingtaine d'années, j'ai un peu revu cette utilisation du terme repérage, puisque j'ai convenu, tout comme il l'a fait, que repérage, ça fait un petit peu cliché. On imagine un petit peu le bibliothécaire planqué derrière un rayonnage avec un 22 long rifle prêt à abattre une personne en situation d'illettrisme. Identification est plus neutre, je préfère ce terme. Les personnes en situation d'illettrisme ont des stratégies de contournement. Plutôt que d'affronter leurs difficultés, de se confronter aux obstacles, elles ont développé des stratégies qui leur permettent d'éviter ces obstacles. Il est évident, qu'une personne en situation d'illettrisme ne va pas entrer dans une bibliothèque en disant « Je suis en situation d'illettrisme, aidez-moi ». Ça n'arrivera jamais. En tant que telle, cette identification pose problème. Autre problème, dans la légitimité des bibliothèques dans le combat contre l'illettrisme, l'image de la bibliothèque. Et là, je m'appuierai sur un exemple. J'ai une bibliothèque en tête que je ne citerai pas, mais qui, de l'extérieur, du sol jusqu'au toit, est recouverte de citations de grands écrivains. Alors, ça peut être Hugo, de grands hommes, ça peut être Malraux. Il y a De Gaulle aussi. Dans une typographie bien spécifique qui requiert de recomposer les lettres dans son esprit. C'est-à-dire que si vous imaginez un E, imaginez que la moitié gauche du E est totalement effacée. Ce qui requiert un effort déjà pour une personne qui sait lire et qui maîtrise la lecture. Imaginez qu'elle en fait cela peut-être pour une personne qui ne maîtrise absolument pas la lecture. De fait, la bibliothèque peut parfois effrayer, et même si on est revenu de cette logique de la bibliothèque comme temple immémoriel de la culture, pour certaines personnes, franchir ce seuil relève encore du défi. La posture du professionnel, et là je ferai vite, c'est simplement essayer de contrebalancer le fait d'être trop professionnel et le fait d'être trop proche, puisque ces personnes ont besoin d'un lien humain direct. Et enfin, de simples biais culturels. Pendant longtemps, les établissements, les institutions culturelles, que ce soit les bibliothèques ou les musées d'ailleurs, ont fait office dans le cadre de formation de l'illettrisme comme simple biais culturel, c'est-à-dire qu'elles faisaient office de sortie du dimanche. En gros, pendant une semaine, du lundi au samedi, on faisait la formation au centre ressources illettrisme. Et le dimanche, ben, on allait au musée ou à la bibliothèque, plutôt au musée d'ailleurs, puisque c'est le lieu de l'appropriation par le sensible, par le ressenti plutôt que par la lecture. Eh bien voilà, on allait simplement au titre de biais culturel à la bibliothèque ou au musée. Depuis, on en est revenu. Depuis 2006, c'est un ouvrage, une étude qui a été réalisée qui s'appelle « Action culturelle et lutte contre l'illettrisme ». On est revenu de cette thématique et on se rend compte que les bibliothèques ont un rôle parfaitement légitime à jouer dans ce domaine. Enfin, des obstacles à l'engagement. La formation des personnels, et là c'est évident, les bibliothécaires ont du mal à faire la distinction que j'ai établie précédemment entre illettrisme, analphabétisme, français, langue étrangère. Un exemple tout simple, une des personnes que j'ai interrogées pour ce mémoire, au cours de l'entretien que j'ai eu avec elle, je lui ai posé comme question « Menez-vous des actions de lutte contre l'illettrisme dans votre établissement ?» Réponse de cette personne, tout à fait, nous accueillons des migrants dans le cadre d'ateliers. Oui, mais non, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce sont deux situations différentes, quoi qu'on puisse tolérer des rapprochements. La motivation des personnels. Toutes les personnes qui travaillent en bibliothèque n'ont pas nécessairement envie de s'impliquer dans ce domaine qui est assez connoté, qui renvoie à une fragilité linguistique et à des problèmes que ces personnes ont pu chercher à éviter, puisque la bibliothèque a pu constituer une espèce d'ascenseur social. En intégrant une bibliothèque, lieu de la culture, elles n'ont peut-être pas envie de se confronter à ces thématiques qu'elles peuvent juger inférieures à elles-mêmes. J'ai vu des personnes qui considéraient ça et qui considéraient que ce n'était pas leur rôle de s'occuper de la lutte contre l'illettrisme. Médiation ou accompagnement, là c'est la question logique de savoir si un bibliothécaire doit se contenter de médiation ou d'accompagnement. C'est-à-dire que dans un cas bien précis, un exemple que je développe, qui est celui de la médiathèque intercommunale d'Albertville-Ugine, les bibliothécaires ont poussé la formalisation de la lutte contre l'illettrisme à un point tel qu'il y a un service dédié à la lutte contre l'illettrisme au sein de cet établissement pour accompagner le centre ressources illettrisme dans une formation qui est allée sur l'année. Dans le cadre de cette formation qui se déroule à la bibliothèque, les bibliothécaires vont jusqu'à appeler les personnes qui participent à ces formations, vont jusqu'à leur demander si elles ont besoin d'aide pour aller à la bibliothèque. Elles poussent plus loin encore la simple médiation jusqu'à l'accompagnement. Formalisation et temporalité des actions, il est bien évident que pour des personnes qui ont déjà un traumatisme avec l'écrit, qui ont des difficultés à s'approprier l'écrit, on ne peut pas leur demander de faire l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en 3 semaines quand on demande des années à des enfants qui sont au primaire, par exemple, ou au collège même, ça peut continuer. De fait, l'importance des actions, les actions sont d'autant plus importantes qu'elles sont ancrées dans la durée. C'est aussi pour ça que les politiques ont parfois du mal à motiver ce genre d'action, puisqu'ils sont dans un temps relativement court. Pour rapporter à leur mandat quelques années. Ils voudraient voir des résultats à la fin de leur mandat ou de leur mandature. C'est impossible. On ne peut pas mesurer des améliorations effectives à la fin d'un mandat. De fait, il faut vraiment formaliser ces actions, leur donner une place propre dans les services ou les actions proposées par une bibliothèque. Et c'est nécessaire de pousser la formalisation à un point tel que ça n'est pas juste quelque chose qu'on met en place pendant 3 semaines et qu'on oublie rapidement à la fin d'une année. Enfin, une évaluation complexe à mettre en œuvre. On a parfois du mal, et j'ai pu le noter dans certains comptes rendus de formations qui ont eu lieu dans des bibliothèques, à dépasser le cadre du purement qualitatif. Les données produites sont souvent de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire, on trouve que telle personne qui est arrivée, qui était relativement fermée à la bibliothèque au début de l'année, à la fin de l'année, parle plus facilement et plus ouverte, etc. A une maîtrise de l'écrit qui est plus facilitée, mais ça reste de l'ordre du ressenti. On n'a pas de données, on ne peut pas produire du quantitatif avec ce type de ressenti. Enfin, vers une implication plus innée des bibliothèques publiques, en tant que telle, depuis un séminaire qui a eu lieu à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre 2015, à la Cité du Mot à la Charité sur Loire, sur les publics empêchés, en particulier sur les publics en situation d'illettrisme, les bibliothèques publiques tentent à s'impliquer davantage dans ce champ de la lutte contre l'illettrisme. Je citerai la création toute simple du groupe de travail illettrisme. La création du groupe de travail illettrisme au sein de l'ABF qui a permis à cette question véritablement d'émerger dans le champ des bibliothèques et vraiment de se formaliser au point que maintenant on peut s'attendre à des améliorations dans les années à venir. Je vais passer très vite. La question territoriale, je vous renverrai volontiers à ce mémoire, où là, je parle de la différenciation territoriale, puisqu'on ne combat pas l'illettrisme de la même manière qu'on se trouve dans un quartier extrêmement dense, extrêmement brassé culturellement, extrêmement peuplé, avec des acteurs très proches, qu'on ne le combat de la même manière sur un territoire rural extrêmement éclaté, à la densité moindre et aux acteurs plus éparpillés. La dichotomie prévention-lutte que j'ai déjà balayée au début de cette intervention. Ensuite, une typologie et les dispositifs qui sont envisageables avec des volets plus traditionnels. La relative timidité du volet numérique face à l'illettrisme qui est encore en émergence et qui n'est pas encore assez solide. Trois exemples qui sont juste en dessous qui concernent la médiathèque intercommunale d'Albertville-Ugine dont j'ai parlé tout à l'heure. L'opération mot de passe 63 dans le Puy-de-Dôme qui est intéressant puisque c'est une opération qui a été menée à l'échelle départementale et qui maintenant... du fait de sa trop grande amplitude a dû être ramené à la médiathèque de Thiers. Et enfin le dynamisme breton avec l'opération à dos de mots et le concept du facile à lire sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire mais que je ne peux pas développer. Quelle conclusion? Bon, ça on va le passer. Et le vademécum dans tout ça, vous me direz. Alors combattre l'illettrisme en lecture publique, c'est enfin votre mission si vous l'acceptez. Pour ce faire, je vous propose un vademécum à destination des bibliothécaires, mais utile à tout acteur du combat contre l'illettrisme pour porter une meilleure connaissance de la profession et de l'intérêt qu'il peut y avoir à utiliser et à faire appel aux bibliothèques dans la lutte contre l'illettrisme. Ce vademécum se présente sous la forme d'une dizaine de fiches pratiques numérotées que les professionnels doivent adapter à leur contexte de travail. Je ne fournis pas de clé en main. Les thématiques que j'ai traitées, vous les voyez à l'écran, je les passe très rapidement. L'anatomie d'une fiche pratique est la suivante, ça se présente de la sorte. En général, c'est une fiche recto-verso. Dans un cas, c'est deux fiches recto-verso, puisque ça nécessitait de donner plus de références. Vous avez le traitement dans la fiche, et à la fin, vous avez un petit carré pour aller plus loin avec des renvois vers les premières parties du mémoire, mais aussi des renvois par hyperlien sur d'autres sites. Et après, eh bien, j'envisage de travailler sur une version indépendante du vademécum qui soit indépendante du mémoire, c'est-à-dire qui soit plus facilement appropriée, qui peut être facilement plus appropriée par les professionnels, qui peut circuler prochainement. Et dans le cadre du groupe de travail illettrisme de l'ABF que j'ai intégré, dont je fais partie, donc nous avons eu notre journée d'études à la bibliothèque de Villetaneuse. Les actes de la journée devraient être publiés prochainement. Je vous invite à aller les consulter. Je dispose d'une copie, mais à ma connaissance, ils n'ont pas été rendu public. L'action de l'ABF dans le cadre de ce groupe de travail est éligible à l'appel à projet Action culturelle et langue française du ministère de la Culture et nous espérons que dans le cadre de cet appel à projet, nous bénéficierons d'une subvention pour pouvoir conduire deux projets, qui est la publication d'un numéro de la revue Bibliothèque sur l'illettrisme à la fin de l'année 2017, en décembre de mémoire, et la publication d'un médiathème sur cette question bien spécifique de l'illettrisme en lecture publique courant 2018. En bref, à vous de jouer.
Merci beaucoup Philippe, je suis désolé de jouer les censeurs. On essaye de tenir le timing et c'est peut-être l'occasion justement de prendre une ou deux questions si vous en avez dans la salle sur cette question quand même effectivement récurrente parce que c'est pas la première fois qu'on en parle mais on a quand même le sentiment que qu'on n'avance pas autant que, qu'on le pourrait sur...
C'est ça, en fait, la thématique existe depuis une quarantaine d'années, mais en tant que tel, les bibliothécaires s'y intéressent véritablement ou essaient de formaliser quelque chose depuis 4-5 ans. À l'époque du mémoire de Sylvie Tomix, ça n'était pas encore le cas, c'était encore relativement fragile, et là, on est 7-8 ans après son mémoire, et on n'a pas beaucoup avancé. Alors, on espère qu'avec la création de ce groupe de travail illettrisme, ça va impulser quelque chose dans le secteur, mais effectivement, 40 ans après, on n'a pas fait beaucoup de chemin.
Est-ce que vous avez des... Alors, ça peut être des témoignages aussi, hein, bien sûr, hein, c'est dans le cadre de cette journée d'études, évidemment. Oui, quelqu'un tout au fond, là. Ouais.
C'est à nouveau moi. Puisque vous nous avez sollicité pour une définition et que j'ai cherché à y répondre tout à l'heure, je trouve que ce serait le bon moment, étant donné tout ce qu'on a dit, dû à la transition numérique, pour renouer précisément avec la définition pleine de l'illettrisme et ne pas se concentrer uniquement sur les questions de lecture et d'écriture. Il y a des choses qui attestent, qui peuvent témoigner de cette démarche-là dans les bibliothèques que vous avez pu rencontrer.
Disons qu'on est encore à l'heure actuelle sur des formes assez traditionnelles. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la typologie. Pour l'heure, on est encore dans la collaboration avec les centres ressources illettrisme en général sur des ateliers d'écriture. Donc on est vraiment sur l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Mais c'est vrai, en tant que tel, dans ce que vous dites, les compétences de base s'est élargie par rapport à ça. Ce n'est pas juste la maîtrise de l'écriture, de la lecture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être le simple fait de s'orienter. La dimension importante dans l'illettrisme qu'il faut garder en tête, c'est qu'au-delà de la maîtrise du français, il y a cette notion d'autonomie. C'est-à-dire, est-ce que je me sens assez à l'aise dans ma vie quotidienne pour ne pas avoir besoin d'autres personnes ? Et en général, c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut repérer les personnes en situation d'illettrisme. Si, par exemple, dans le cadre d'un rendez-vous dans les services sociaux, une personne qui paraît tout à fait capable de s'exprimer par elle-même est accompagnée... Alors, très souvent, on remarque que ce sont des personnes de 40-50 ans qui sont accompagnées de leur fille, ou alors d'une cousine, d'une nièce, et que lorsque des questions leur sont posées vis-à-vis de leur maîtrise de la langue française, elles ont tendance à éviter les questions, à dire que les livres, c'est pas trop mon fort, ce genre de choses. On peut repérer ces personnes et on peut se rendre compte que, tout simplement, si... cette personne a recours à une béquille, c'est qu'elle est en situation d'illettrisme. Mais pour revenir à ce que vous disiez, en tant que tel, on est à une étape et un stade où l'illettrisme est encore assez peu maîtrisé par les bibliothèques, où elles s'investissent modestement dans cette thématique, ou très ponctuellement. Pour preuve, on pose souvent la question de savoir si les bibliothèques, en termes de formation, s'il y a quelque chose qui est offert en termes de formation initiale sur l'illettrisme. Dans la formation à l'ENSIP, je donne cet exemple, mais j'ai entendu parler de français langue étrangère. À aucun moment, en dehors de mon mémoire, j'ai entendu parler du phénomène de l'illettrisme. Aucune intervention n'en a parlé en tant que telle. L'illettrisme est encore une thématique qui, bien que présente depuis des dizaines d'années, est encore modestement représentée. Et de fait, on a plus droit à des journées comme celle-ci, mais consacrées exclusivement à l'illettrisme, des journées de formation continue. En formation initiale, on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore rendu. Et je trouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant que l'illettrisme et avant qu'on dépasse ce cadre, comme vous disiez, de simple écriture, lecture, et qu'on entre vraiment dans le développement personnel, le développement de l'individu, le fait de se sentir autonome. Il y a encore du chemin pour moi.
Peut-être une toute dernière question ou intervention. En tout cas, je rebondis sur cette notion de dédramatisation sociale auquel les institutions ont intérêt à participer. Hein. Mm. On a parlé de la formation, mais parlons aussi des bibliothèques en elles-mêmes. Je pense que le problème aussi de la visibilité de l'illettrisme, il tient en partie à cette question. Oui.
Bonjour, je vous remercie de tout ce que vous avez dit. Moi, je voulais juste témoigner parce qu'en fait, vous aviez évoqué le rapport dans les années 80, qui, je pense, est le rapport Pingot-Barreau de lutte contre l'illettrisme et qui est apparu à l'époque dans les années Mitterrand. J'ai eu l'énorme chance de travailler, en tout cas de commencer ma carrière dans un centre de ressources et de documentation sociale qui était donc issu de ce rapport. Et il y en avait quelques-uns en France, et c'était un véritable lieu ouvert, un troisième lieu comme on peut en voir aujourd'hui. Donc ça avait déjà existé, ce type d'endroit à l'époque. Et sinon, ce que je voulais aussi apporter comme précision, c'était que les enquêtes, les premières enquêtes sur l'illettrisme en France dataient déjà de cette époque-là, puisque le meilleur moyen pour connaître l'état de l'illettrisme, c'était les trois jours à l'armée. Et donc, on savait à l'époque combien d'hommes, en tout cas, donc étaient en situation d'illettrisme. Et dans les années 80, on en comptait 1 sur 5 qui passaient donc ces tests d'écriture et de lecture à l'armée. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, parce que ça me rappelle non seulement les débuts de ma carrière avant de tomber dans les médiathèques. À l'époque, c'était aussi une question de volonté d'élu, et ça, c'était extrêmement important. Oui, à un moment donné, l'élu qui avait développé et puis donné toutes ces subventions pour mettre en place ce centre de ressources qui était à la fois un relais de la bibliothèque départementale, un relais du centre d'information des droits des femmes et des familles, un relais du centre d'information jeunesse, un lieu extrêmement ouvert. En fait, à un moment donné, eh bien, les subventions se sont arrêtées, mais une bibliothèque municipale est née dans ce même endroit.
D'accord.
Voilà. Donc, merci à vous.
Merci.
Bonjour. Bonjour. Une question qui n'est pas forcément liée à la bibliothèque, mais qui est liée à l'illettrisme et aux nouvelles technologies. En observant une communauté de tziganes qui ont une culture orale et qui n'ont pas l'habitude d'écrire, je l'ai vu se mettre à l'écriture du fait qu'ils souhaitent en fait envoyer des SMS, écrire sur Facebook, avoir leur page Facebook. Et tout d'un coup, je me demande, est-ce que vous avez étudié l'effet en fait des nouvelles technologies sur l'écriture et sur notamment des populations qui sont des illettrés en fait et qui arrivent se auto-éduquer et souvent sont les logiciels, vous savez, les correcteurs qui écrivent la moitié du mot, ils commencent un mot, ils corrigent. Et deuxième aussi, le fait que maintenant, il y a beaucoup de réseaux où les gens s'expriment et font le récit narratif de soi via des photographies. Et ça aussi, je pense qu'il y a un effet sur, je ne sais pas, peut être réductif à propos du langage ou qu'est-ce que ça développe. C'était ça ma question.
Alors, sur l'utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, non, je n'ai pas étudié ça dans le cadre de mon mémoire. C'est néanmoins une piste d'étude qui pourrait être analysée. Vous avez tout à fait raison là-dessus. En tant que tel, après, vous avez raison d'insister sur... C'est sur l'oralité que vous insistiez en deuxième point. Vous avez tout à fait raison d'insister sur l'oralité, puisque... Et j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose qu'on ne dit pas assez. Les personnes en situation d'illettrisme... J'utilise tout le temps cette périphrase. Personne en situation d'illettrisme. Je refuse systématiquement de qualifier ces personnes, du moins d'utiliser le substantif illettré. Pour moi, ça les renvoie tout de suite à une violence, c'est-à-dire que on leur dénie toute culture, on leur renie leur culture. Ce sont des personnes qui ont une culture. Elles ne sont pas dénuées d'intelligence. Elles ont des contenus, elles maîtrisent des choses, elles ont des connaissances qu'elles ont accumulées au fil des années par leurs propres moyens, par leurs biais, par des biais, pardon. Et je citerai un exemple tout simple. Dans le cadre d'un stage découverte que j'avais pu faire à la médiathèque André Malraux de Strasbourg, au patrimoine, justement, on ne se refait pas quand on est chartiste, j'avais pu interagir avec Agathe Bischoff-Morales, qui est responsable du patrimoine, là-bas du fonds patrimonial, et qui m'avait dit qu'elle avait reçu des personnes en situation d'illettrisme une après-midi. Le centre ressources illettrisme les lui avait envoyées en disant qu'il faudrait faire un peu d'éveil culturel grâce à la bibliothèque. Donc des ouvrages étaient posés, notamment des planisphères, des documents patrimoniaux avec des vues, etc., des vieilles gravures. Et une personne qui est d'origine turque, en fait, a vu à un moment un ouvrage et elle a dit « mais je reconnais vaguement ça. Ah oui, mais attendez, est-ce que vous connaissez tel poète ?» Alors, j'ai plus le nom du poète en tête, parce que c'est un nom bien spécifique, j'ignore son nom. Et Agathe Bischoff-Morales lui a dit « Ah non, pas du tout, j'ignore totalement de qui il s'agit, pourquoi vous pouvez m'en parler ?» Et cette femme, qui était qualifiée d'illettrée, en situation d'illettrisme, s'est mise à réciter le poème entier qui devait faire une quarantaine de vers, de tête, de mémoire. Elle l'avait simplement appris par l'oral, sans avoir recours à l'écrit. Et je me servirai juste de cet exemple pour effectivement prouver que ces personnes, par le biais de l'oralité, peuvent acquérir des connaissances, et il ne faut pas négliger la part d'oralité dans ce secteur bien précis ou ce domaine bien précis de l'illettrisme.
Merci. Voilà. Toute dernière, alors vraiment. Dernière.
Bonjour.
Bonjour.
C'est assez lié, c'était pour savoir comme ces personnes ont honte de leur situation et bon, font toutes sortes de scénarios pour cacher leur... Donc, est-ce qu'il y aurait des supports numériques qui leur permettraient d'avoir un apprentissage un peu autonome par rapport à leurs problèmes, une progression par eux-mêmes?
Par eux-mêmes, c'est relativement
compliqué. C'est très difficile, mais ce serait à la fois audio et vidéo.
Exactement.
Et
en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en situation d'illettrisme qui ont recours à ce que les personnes qui ont un défaut visuel ou des problèmes en relatif à... qui sont aveugles, en fait, utilisent beaucoup des synthèses vocales, ce genre de contournement. Et ces personnes ont souvent recours à des synthèses vocales pour lire, par exemple, ce qu'il y a sur le smartphone, etc. Ce genre de choses. Donc ça, c'est pour contourner le problème. Ensuite, pour se former soi-même, non, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose qui existe. Néanmoins, là, je reviens un petit peu sur le côté bibliothécaire, mais pour, si vous voulez une formation toute bête pour apprendre à repérer ou à identifier les personnes en situation d'illettrisme, je vous renverrai bien volontiers à une plateforme d'e-learning qui a été mise en place par l'ANLCI au cours de l'année 2016. Vous tapez e-learning à ANLCI, vous trouverez très facilement sur Internet, et cette plateforme vous permet... Alors, dans deux modules, un d'un quart d'heure, un d'une heure, de vous former pour apprendre à repérer ces personnes, à trouver les petits indices qui permettent de sentir qu'une personne est en fragilité avec la langue française. Ça a été mis en place principalement pour l'administration et les services publics, dans le cadre d'un partenariat, puisqu'il y a énormément de personnes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories C, qui sont confrontées à ce problème d'illettrisme. Néanmoins, ça peut servir à d'autres personnes et ça permet d'éclairer cette problématique de l'illettrisme et de repérer ces personnes, puisque... d'identifier, pardon, puisque l'identification pose réellement problème. Mais en tant que tel, vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur le fait que ces personnes, en tant que telles, par elles-mêmes, ne peuvent pas s'en sortir. Elles ont besoin de quelqu'un pour leur aider à sortir, pour les aider à sortir de cette situation.
Merci.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On peut peut-être citer aussi... comme un dispositif dédramatisant et ludique, la biblioconnexion qui est développée par le Salon du Livre, de la Presse et du Livre Jeunesse de Montreuil et qui permet d'associer les enfants de façon assez décomplexée à la lecture des livres. On va passer, merci beaucoup Philippe, encore une fois.